Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 18 juillet 2026. On se retrouve pour l'épisode 14 des Archives de l'Architecte, le récapitulatif de l'actualité financière pour cette semaine, avec un gros focus cette semaine sur le Clarity Act aux États-Unis. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations, donc je compte sur vous pour nous faire des retours, le petit pouce, le petit commentaire, puisque c'est des émissions un peu plus denses et je pense que vous allez en avoir pour votre temps. On part immédiatement avec les risques géopolitiques, encore et toujours, une semaine compliqué pour le marché action, notamment la tech et les semi-conducteurs qui reculent fortement en Asie, impliquant petit à petit une contagion jusqu'aux États-Unis. Le Bitcoin, pour sa part, a mieux résisté que le Nasdaq, c'est à noter pour le court terme. Le S&P 500 recule de moins 1,55%, le Nasdaq de 3 points, le Dow Jones de 1% et enfin le SOX, l'indice ETF des semi-conducteurs, de moins 10%. Action tech dans la tourmente, le MSCI Asie hors Japon recule de moins 3%, le Nikkei moins 4%, moins 12 depuis son ATH. L'inflation US, bonne surprise, mais pas encore victorieuse. 3,5 points par rapport à 3,8 attendu. La Fed, le taux obligataire à 10 ans est autour de 4,55%. Le 20 et 30 ans, toujours autour de 5 points. Prix à la production qui recule légèrement. Vente au détail qui progresse de 0,2. Pas de signe de ralentissement net au niveau de l'économie et de la confiance des consommateurs américains. Hors commodités et obligations, le Brent est WTI pétrole progresse de 4,5% sur la semaine, en cause les reprises du côté du détroit d'Hormuz. L'or termine la semaine autour de 4 000 $ l'once. Les tensions géopolitiques ont tendance à favoriser le fly to safety en cash et notamment en dollars. Les résultats d'entreprise des banques américaines très solides, environ 61,5 milliards de revenus en hausse de plus 24%. BlackRock détenant désormais 15 000 milliards sous gestion. On a un CPI favorable aux obligations et aux actions, mais pas suffisamment pour faire disparaître le risque de hausse de taux, donc on continuera de naviguer à vue pour les 3 à 6 prochains mois. Et enfin, Netflix sanctionné après des prévisions inférieures aux attentes malgré des résultats trimestriels corrects. TSMC, pour sa part, prévoit 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Bitcoin, crypto, toujours stable autour de 64 000 $. Ethereum surperforme temporairement, 1850, et reste très largement dominant en valeur bloquée sur son réseau. La capitalisation des stablecoins est de 310 milliards, USDT représente 184 milliards, 73 milliards pour USDC. La tendance de fond du cycle de 4 ans reste jusqu'ici intacte, avec un point bas final peut-être entre la fin d'été et l'automne, où on pourrait avoir petit à petit la reprise de ce marché. On fait donc le focus aujourd'hui sur le Clarity Act, avec au niveau des dates, la Chambre des représentants qui a adopté le Digital Asset Market Clarity Act en juillet 2025, c'était il y a un an, par 294 voix contre 134, avec le soutien de 78 démocrates. Le 14 mai 2026, révision au Sénat du texte pour 15 voix contre 9. La commission de l'agriculture a avancé séparément son propre texte. Les deux versions doivent être encore fusionnées. Le 10 août, et c'est la deadline de cet été, on aura donc le départ du Sénat en vacances. Donc il faut absolument que ce vote passe avant le 7 août 2026. Et c'est tout l'enjeu du moment, c'est un petit peu une certaine urgence pour permettre justement d'avoir un automne qui sera positif pour la crypto. Les principaux points de blocage, on a des protocoles jugés suffisamment décentralisés qui bénéficieront, eux, d'exemptions importantes. Donc c'est là tout l'enjeu au-delà des stablecoins, on va y venir dans un instant. Les services disposant donc d'un contrôle identifiable, interface centralisée ou capacité d'intervention pourraient être soumis aux obligations des courtiers et règles sur les valeurs mobilières, le Bank Secrecy Act. Les interfaces web et front-ends pourraient conserver certaines obligations en matière de sanctions et lutte contre le blanchiment d'argent. Stablecoin rémunéré, éthique et conflit d'intérêts jusqu'aux plus hautes sphères de l'État US. Le compromis actuel interdirait en principe de verser un rendement en détenant un stablecoin. C'est vraiment ça, l'establishment financier bancaire qui s'oppose bien entendu sur le fait que des sociétés qui émettent du dollar adossé à du dollar physique quelque part, mais qui est du dollar numérique. Donc quand on parle de Tether notamment, on l'a vu tout à l'heure, ça représente aujourd'hui près de 200 milliards. Ils n'ont pas forcément envie que derrière ils puissent délivrer du rendement comme ça et que petit à petit ils se substituent aux banques quelque part. Donc un sujet qui oppose frontalement et directement l'industrie bancaire, le lobby tout puissant au secteur crypto qui est tout petit aujourd'hui. Les démocrates qui demandent des restrictions plus strictes concernant la détention ou promotion de crypto-actifs de la part du président US et de sa famille, puisque que ces activités restent un des principaux obstacles à la formation d'une coalition de 60 sénateurs. Quelles sont les chances que cela passe avant donc cette fameuse deadline du 7 août? On est approximativement autour de 40% d'après les marchés prédictifs. Loi définitivement signée avant la pause estivale, on ne serait qu'à 15%. Loi signée avant le 31 décembre de cette année, 40%. La sénatrice Cynthia Loomis estime que si le vote ne passe pas maintenant, il se pourrait que sous certaines conditions, la prochaine fenêtre ne s'ouvre que d'ici à 2030 sous une nouvelle présidence, ce qui serait beaucoup moins favorable pour le court et moyen terme pour cette industrie. Pour autant, ce scénario est peu plausible puisqu'on parle de plusieurs années. Fin 2026, si jamais ça n'est pas voté là en août, le dossier sera repris après les élections de mi-mandat. 2027 à 2028, un nouveau texte peut être proposé ou une reprise de l'existant. 2029-2030, là, ça serait le scénario beaucoup plus défavorable si la législation n'a pas été adoptée d'ici là, puisqu'on passera sous une nouvelle présidence. Conséquences pour le marché et la DeFi, structurellement très positif si ça passe pour Ethereum et les grands protocoles américains. Coinbase et les intermédiaires réglementés en profiteront directement. Entrée des banques et gestionnaires institutionnels dans la tokenisation d'actifs. On le voit en ce moment, ça spécule pas mal, notamment autour de Hondo. Développeurs de logiciels non dépositaires, le texte n'est cependant pas une dérégulation totale. En cas de report, la SEC et CFTC, donc les deux gendarmes de la bourse américaine, pourraient continuer à fournir temporairement des exemptions ou des interprétations à leur bon vouloir sur des décisions administratives qui resteront bien plus fragiles que si le Clarity Act passe. La semaine prochaine, résultats qui continuent, Alphabet, Google, Tesla, Intel et Texas Instruments pour les plus grandes, réunion de la BCE pour l'Europe le 23 juillet et enfin les nouveaux indicateurs PMI. Du côté de l'analyse technique, comme d'hab et comme toutes les semaines, j'essaie d'aller le plus vite possible, mais il y a toujours quelques trucs à passer et à voir. Le VIX 12-20, donc l'indice de la peur et de la volatilité pour le S&P 500, qui est un peu sous les 20 sur une zone de croisement, et on voit que les oscillateurs nous annoncent peut-être une augmentation de cette volatilité entre cette mi-juillet et cette mi-août. Vous avez eu également la disponibilité du Amundi, donc le ticker est affiché à l'écran, c'est FR001407NX3. D'ailleurs, c'est pas le ticker, mais l'ISIN, puisque le ticker c'est GPEA. Vous ne pouvez pas encore l'avoir ces derniers jours sur vos bons vieux Boursorama, Bourse Directe, Fortuneo, etc., puisqu'il faut quelques jours pour qu'il y ait de l'encours, que tout ceci soit listé sur vos bonnes vieilles banques françaises ou différents brokers. Et je crois qu'il y avait un utilisateur sur X qui montrait qu'il avait demandé à Boursorama et qu'ils annonçaient une disponibilité lundi à mardi. Pour rappel, vous pouvez retrouver les informations sur le site de Amundi directement par rapport à cet ETF, et il aura donc 2460 actions de 23 pays développés, 24 pays émergents. La part commence autour de 5 euros et on est à 0,30% de frais par an. On part donc au niveau du dollar avec 175 pour le DXY, toujours en latéralisation mais toujours au-dessus de la zone de break des 100 points. Donc on pourrait rallier si l'été était justement un peu plus chahuté autour de 103 points pour le DXY. Le CAC 40 pour la France continue de latéraliser, rien d'exploitable de ce côté-là. Pareillement pour le DAX, après être venu chercher un nouvel ATH proche des 26 000 points la semaine dernière. Les taux à 10, 20, 30 ans sont toujours très haut perchés pour les États-Unis. 4,55 pour le 10 et 5,076 pour le 20, 5,072 pour le 30. Ceci étant dit, dès qu'on franchit les 5 points pour le 20 et le 30, en effet, c'est une zone dure par rapport au marché obligataire américain. L'Eurostox 600, pareil, en recul léger cette semaine, 0,34, le 50 pareillement. On a des supports qui sont un peu plus loin. Le S&P 500 qui continue de faire le dos rond. Donc, on avait l'impression qu'on était dans une petite consolidation là depuis un mois et demi en triangle rectangle ascendant. Et malheureusement, les oscillateurs nous annonçaient une autre limonade. Donc, on voit quand on fait le dos rond comme ça, vous le voyez en bas au niveau du MACD, pour ceux qui ne font pas d'analyse technique, vous avez petit à petit un histogramme qui est en vert et en violet en bas de votre écran et deux courbes qui vont croiser, mais croiser haut pour pour se diriger petit à petit vers le bas. Le RSI, c'est un peu plus tendancieux, c'est moins exploitable à court terme, mais les deux cumulés à ce qui est en train de se passer sur le cours, ça annonce plutôt, sous un mois roulant maximum d'ici la fin du mois d'août, qu'on risque plutôt d'aller revisiter cette zone des 7000 points plutôt que de péter immédiatement vers le nord pour le S&P. Au niveau des indices monde qui, pour le WPEA et CW8 d'Amundi, sont moins aujourd'hui diversifiés que ce que le sera le GPEA. Ceci étant dit, ce nouvel ETF n'est pas si diversifié que ça, donc je vous invite à bien regarder sur le site d'Amundi ce qu'il contient, bien entendu, pour ne pas vous faire de faux espoirs quant à la diversification, que ça soit sectorielle ou géographique. En tout cas, pour l'instant, on est relativement toujours haut pour ces deux indices monde qui reculent respectivement de 1,07 et 1,09%. Le Nasdaq, pour sa part, clôture à moins 1,50 la semaine. Très certainement un retour au contact de la MM20, désormais à 27 550 points. Et là, on voit qu'on est un peu plus avancé au niveau des oscillateurs que le S&P 500. Le gold qui continue de latéraliser depuis 3-4 semaines, c'est pas mal. Ça défend les 4 000 $. Et là, vous voyez, on a le miroir inverse. C'est-à-dire que petit à petit, les oscillateurs se sont purgés. Le RSI est autour de 36. Alors, c'est pas encore une survente ou quoi que ce soit. On n'est pas dans le mood de septembre 2022 et on est en train de revenir malgré tout sur un point de octobre 2023. Donc peut-être que, en effet, toute cette zone 3 900-4 000 pour le gold va permettre petit à petit la digestion estivale. Et si pour X ou Y raison il y avait de nouveau un retour de tension géopolitique, etc., on pourrait avoir une initiation à nouveau positive du côté des métaux précieux et le gold en tête de file. On passe aux cryptos avec le crypto total toujours collé à la moyenne mobile 200, 2170 milliards statu quo. On a la 300 juste en dessous autour de 2000 milliards, la 20 juste au-dessus à 2350. On continue de contracter la volatilité. Du côté du Bitcoin, ça se retranscrit par 64 000. Pareil, ça fait 2-3 semaines qu'on longe littéralement cette MM200 qui est autour de 64. On avait la petite divergence ici. On va voir si on arrive donc à pousser un peu plus fort si ce fameux Clarity Act venait à passer. Et vraiment, ça ouvrirait des vannes qui, je pense, pour les 2-3 prochaines années seraient très positives pour le secteur. Il en va de même, comme vous l'aurez compris, pour Ethereum. Alors, on voit passer pas mal de statuts ces temps-ci que des whales accumulent, que des gros fonds accumulent, etc. C'est toujours très tendancieux à exploiter comme information. Donc, on se contentera de ce qu'on a sous les yeux. On a eu un double point bas qui a été défendu récemment à 1 500 $. On est aujourd'hui entre 1750 et 1850 à peu près sur cette semaine. Ça a balayé sur une centaine de dollars. La moyenne mobile 20 aujourd'hui est à 2000, le pivot à 2150 et ensuite on a la MM200 à 2475 et la véritable zone d'accélération de bull run plus tard comme on l'avait vu la dernière fois du côté de Bitcoin avec la MM50 qui se trouve aujourd'hui à 2870 pour Ethereum. On pourra constater d'ailleurs qu'on est complètement sorti du sable une fois qu'on travaillera au-dessus de 3000-3400, ce qui déjà fait une progression qui est non négligeable par rapport aux 1840 actuels. Du côté des minières et des bancaires associés à cet écosystème, je dis bancaire parce qu'aujourd'hui ça me fait presque rire de voir justement des Coinbase, des Circle, etc. devenir peut-être les nouvelles banques de demain. Donc peut-être que dans les prochaines années, Coinbase, on dira oui, c'est une bancaire crypto ou une bancaire tout court, va savoir. Donc 157 $ en latéralisation depuis un bon moment. Comme vous l'aurez compris, c'est le moment où ça passe ou ça casse avec le Clarity Act. Si ça passe, eh bien on aura un Coinbase qui va s'apprécier de façon assez monumentale en même temps que très certainement le reste du marché. Si ça ne passe pas, eh bien on risque malheureusement de ronger encore un petit peu notre frein. Donc c'est un statu quo pour encore 3 semaines ici qui risque de mettre le marché sous pression. Et lorsqu'on aura cette réponse, et il vaut mieux croiser les doigts pour nous pour pas voir le Bitcoin justement à 40 ou 50 000. Ceci étant dit, ça dépend comment on se place. Il y en a qui seront très contents de le voir à 40-50. Mais en effet, si le Clarity Act ne passe pas maintenant, je suppose que c'est ce qui précipitera très largement le dernier acte du bear market entre août et septembre. Et d'un point de vue purement temporel, ça sera remarquable si ça arrive malheureusement, puisque ça collera pile poil à ce qui s'est passé précédemment sur ce fameux cycle de 4 ans. Toujours pareil, pour ceux qui aiment bien mettre la main sur la plaque et allumer le feu du four, eh bien il y a MicroStrategy, 95 $. Ça reste quelque chose qui est vraiment très volatile par rapport à BTC. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller chercher un petit peu plus et qui peuvent potentiellement perdre beaucoup plus aussi en face. En effet, pour une toute micro portion du portefeuille très à risque, eh bien, c'est un titre qui a l'air d'intéresser certaines personnes. personnes, au même titre que Circle qui est revenu autour de $60, mais faites très attention à vous, que ça soit du côté des minières ou même du Coinbase aujourd'hui qui a plutôt les reins solides, ça représente toujours un risque supplémentaire par rapport à juste détenir par exemple du BTC qui lui-même, quand on fait la réglette par rapport à détenir des actions des ETF, est immensément plus risqué, vous vous en doutez bien. Côté actions, bah, le S&P en effet pas très glop et on a Netflix en tête de file qui a clôturé à -7,26 après être venu balayer à $65. On n'était pas loin de venir chercher les $60 du 0,618 de Fibo aligné à la moyenne mobile à 300 semaines. Donc je pense malgré tout qu'il va essayer de faire son bottom entre les 60 et $70 Netflix. Il n'est pas descendu beaucoup plus bas à la cave et je pense que les oscillateurs vont se poser au cours de cet été. Donc ma position actuelle est à -17% pour être tout à fait honnête sur mes points d'entrée avec vous. On n'est pas toujours dans des réussites absolues et loin de là d'ailleurs. Parfois il y a plusieurs échecs avant d'avoir une réussite qui porte ses fruits. Donc petit à petit je vais continuer de rentrer donc sur cette position qui n'est pas une grosse position mais qui je pense pourra porter ses fruits plus tard, exactement comme on avait eu ici en 2022 avec une descente de souvenirs qui était à minima de 75% sur Netflix. Et au rayon des réussites, et bien depuis 3 semaines après le contact à la moyenne mobile 20 de $180, on a Apple qui est en train de s'envoler, $333-$334, donc plutôt positif. C'est pas forcément bien entendu comme d'hab le moment pour rentrer, on attendra plus tard un retour à nouveau moyenne mobile 50 voire 200 lorsqu'il y aura bien un jour un crack de marché avec des retours aux moyennes long terme pour le S&P qui reculera à minima comme au moment des tarifs de Trump, comme en 2020, comme en 2022, jusqu'à sa fameuse moyenne mobile 200 pour l'indice en tant que tel. Et en général, ça représente comme ça entre -20 et -25%. Toujours est-il, là, ma position sur Apple, je crois que je suis à +45%. Robinhood, récemment aussi, j'étais à +50%. Donc, vous voyez, ça s'équilibre un petit peu avec, par exemple, Netflix qui, lui, actuellement, est à -17 sur mon portefeuille. Dassault Aviation qui revient peut-être au contact du bas de ce canal parallèle ascendant qui dure depuis le point bas d'avril 2020, donc le crack Covid. On va voir ce que ça donnera, mais c'est vrai que c'est une zone entre 270 et 255 euros qui pourrait faire foi, d'autant plus que petit à petit, on a cette moyenne mobile 200 semaines, 223 euros qui revient par le nord et on a un carnet plein à craquer pour les prochaines années et une Europe qui reprend en plus en main sa défense. Donc je suppose que toutes les valeurs comme ça, défense, qui ont été peut-être un peu trop poussées ces dernières années au vu de ce qui s'est passé en Ukraine, etc., notamment on peut penser également à celle qui est juste en dessous ici, Thalès. On voit qu'on est dans un grand rectangle ici de consolidation, à voir ce que ça pourra donner pour la suite. Mais théoriquement, vu que l'Europe est désormais convaincue qu'il faut investir des centaines, si ce n'est pas des milliers de milliards sur plusieurs années dans son secteur de la défense, cela va de bon sens que normalement bah, les grandes entreprises liées au domaine devraient se porter plutôt positivement. Du côté des altes, alors on va faire les plus gros comme d'hab. On a malheureusement Solana qui bute sur deux reprises les 82-83 dollars moyenne mobile 20 et qui est de retour à 75. Chainlink toujours en consolidation, donc lui il latéralise pendant des lustres avant pendant quelques temps de nous faire un petit quelque chose, mais voilà, 8,25 $. On avait eu des points bas récents autour de 7 dollars. Le BNB, il surfe depuis pas mal de temps sur la MM200, $567. C'est une consolidation qui est très propre. Ondo, comme je vous disais tout à l'heure, qui est un des moins moches sur ce point bas donc de bear market, et très certainement que la mèche qu'il y avait eu en février 2026 à 20 centimes, en tout cas de la façon dont c'est matérialisé aujourd'hui, ne sera pas revisité. Alors tout ça reste quand même soumis à pas mal de paramètres, puisque graphiquement, on sait que le domaine intéresse et d'un point de vue technique, ici au niveau de l'analyse technique, on a des points hauts qui sont plus hauts que le précédent pour le court terme, tandis que la trend long terme a été résolument baissière depuis ce point haut de décembre 2024 où on était pour Ondo autour de 2,13 $. Mais là, on a plutôt une envie voilà, de poser le point bas, de poser un petit peu la volatilité, puisque on a malgré tout eu un retour de 20 centimes jusqu'à autour de 50 centimes, donc ça n'était pas rien. On voit qu'on vient de tester la moyenne mobile 20 semaines. Derrière, ça a l'air de plutôt pas mal tenir. Et si le Clarity Act passe, ça sera un des projets, je suppose, au vu de l'enjeu de la tokenisation d'actifs qui, en effet, pourrait être porteuse. Bien entendu, là on parle de Hondo, il n'y a pas que Hondo, je n'ai pas à ce jour de Hondo en portefeuille, mais c'est un actif qui potentiellement pourra m'intéresser au vu justement de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Hyperliquid qui, pareil, les oscillateurs d'Oron, finalement ça annonce un petit peu la musique est en train de se prendre, je crois, un moins de 10% sur la semaine, bien que ici on est à moins 1 en journalier, ça se met à jour en continu du côté de TradingView. Première zone, 0,38 de Fibo, $55, zone suivante autour de 48, zone encore suivante, moyenne mobile 50 et 0,618 de Fibo, $42 pour ma part. C'est très certainement autour de cette zone si on me donne les $40 où je commencerai à mettre des cartouches un peu plus importantes pour Hyperliquid. On terminera avec la DeFi et AAV qui recule de moins de 2,36. Pareil, il a buté à plusieurs reprises sur les $100 tout pile et on a Uniswap 3,51, toujours très dégradé également. Mais au niveau des mèches, c'est exactement ce qu'on voyait à l'instant pour Hondo. On avait eu une mèche à $2 suivie d'un point bas pas si vieux que ça, là, récent, autour du 1er juin, à $2,32. On est à 3,51. Ça fait partie, je suppose, des actifs, si Bitcoin ne termine pas sa course de bear market à 30 000, bien entendu, qui, normalement, ne devrait pas faire un nouveau point bas. Ceci étant dit, quand on regarde la trend générale de Uniswap, à ce jour, ça reste très compliqué. Là où on pourra reparler de potentiel renversement, c'est quand on travaillera durablement au-dessus de 4,2 et qu'on reviendra travailler du 8 à $9. Donc vous voyez les amplitudes un petit peu pour ne serait-ce que parler de début de renversement de trend, on n'y est vraiment pas encore par rapport à bon nombre d'altcoins. Côté Asie, on a Nintendo depuis 3 semaines qui nous fait un truc plutôt sympa. On avait eu la perte du support il y a à peu près un mois et on l'a repris dans la foulée et bon, désormais on a toutes les moyennes mobiles au-dessus du pif, mais énormément de titres sont exécutés depuis un bon trimestre, voire un semestre désormais sur Nintendo. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer sur ce titre. Le Japon, 20 ans et 30 ans de défense à moyenne mobile 20, 3,85 pour le 30 ans, 3,60 pour le 20 ans. On a le Nikkei qui a reculé de 1,43 avec beaucoup de volatilité, comme vous le savez, ces temps-ci au niveau de l'Asie. Et d'ailleurs, je vois que ma liste TradingView m'a enlevé de nouveau le Kospi et différents trucs que j'avais mis récemment, notamment comme Samsung. Je comprends toujours pas pourquoi TradingView, dès qu'on rajoute 2-3 lignes ou qu'on en enlève certaines, la fois d'après, les jours d'après, malgré le fait d'enregistrer systématiquement, ça saute. Mais voilà, c'est bon à savoir. Essayer de double-check au niveau de ses positions. On avait le Kospi aussi qui n'arrête pas en ce moment pour la Corée de déclencher des circuits trigger et donc de systématiquement couper à moins 6, moins 8, moins 10% en séance sur un des plus gros indices qui est beaucoup leverage, beaucoup de levier pour la Corée et des parieurs, des spéculateurs qui vraiment n'en ont que faire justement de cette volatilité complètement monstre. Alibaba qui depuis 2-3 semaines aussi est passé de 92 à 121, donc sur le NYSE. Belle volatilité, on rencontre la résistance des 120 et c'est repoussé immédiatement. Du côté de Xiaomi, depuis la déviation ici, $21 sous la MM300 et 200, on essaie de reprendre un petit peu. Pareil aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir du Xiaomi pour être un peu plus large que juste du véhicule électrique? Est-ce qu'il vaut mieux avoir du BYD? Est-ce qu'il vaut mieux avoir tout autre chose? Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des actions asiatiques justement de prédilection dans les commentaires. On est aussi là un petit peu pour se donner les bons plans, j'ai envie de vous dire. Le Topix qui recule de moins de 2,72 en même temps que le Shanghai Composite qui perd avec une bougie horrible, impulsive, la MM50 en recul de 3 points et en clôture pour Tencent, pareil, sur une bougie d'indécision cette semaine qui a balayé pour ce titre donc entre 447 et 495 sur le Hong Kong Exchange. Ceci étant dit, pareillement, les oscillateurs, belle divergence, fin de contraction pour le MACD baissière, donc on pourrait avoir dans tous les cas le point bas qui est en train d'être fait pour Tencent. N'hésitez pas à me dire si cette émission vous a plu, le focus sur le Clarity Act, donnez un petit peu votre sentiment du moment par rapport à cet été 2026. Comme vous l'aurez compris, c'est un enjeu vraiment important pour le marché crypto qui pourrait définir les règles de la prochaine décennie et qui ne pourrait théoriquement pas être remis en marche arrière quelque part sous une nouvelle présidence d'ici à 2030. Donc c'est vraiment très important ce qui est en train de se passer maintenant et ça définira des règles claires, des règles strictes pour l'avenir du secteur et les États-Unis. Là, c'est pas du tout pour aller dans son sens puisqu'on a vu qu'il racontait parfois tout et n'importe quoi, mais ça ferait bel et bien des États-Unis la puissance numéro une par rapport aux stablecoins, par rapport aux crypto-monnaies et à la blockchain, ce qui permettrait, quand on voit les flux qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis et notamment autour de l'IA, si un tout petit peu de ça a fini par revenir du côté du marché crypto, je pense qu'on aura deux, trois belles, très, très belles années à nouveau pour ce marché. Donc, on croise les doigts, on touche du bois et en espérant que ce Clarity Act finisse par passer. En vous souhaitant un excellent week-end et pour ma part, je vous retrouve mercredi. Ciao, ciao.